VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 1er octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, un couvre-feu de 48 heures a été décrété hier dans une bonne partie des régions anglophones.
Au Mali, les forces gouvernementales ont déjoué une embuscade contre un convoi escortant des cars entre Gossi et Ombori.
L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo va demander aujourd'hui à être acquitté de tout crime contre l'humanité après avoir passé 7 ans en détention.
Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont parvenus hier à un accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord.
En Indonésie, on craint un alourdissement du bilan actuel d'au moins 832 morts après le tremblement de terre suivi d'un tsunami vendredi.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, un couvre-feu de 48 heures a été décrété dans la plupart des villes des deux régions anglophones. Ce lundi marque le premier anniversaire de la proclamation symbolique de l'indépendance des régions anglophones, alors que le pays doit tenir une élection présidentielle le 7 octobre prochain. Le point avec Idriss Fall.
Ce couvre-feu instauré dimanche et lundi dans les régions anglophones est en vigueur de jour comme de nuit. Il implique en particulier l'interdiction des transports publics et privés ainsi que la fermeture des entreprises et des débits de boissons selon le sous-préfet de Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Les séparatistes ont promis de perturber le scrutin présidentiel du 7 octobre. 9 candidats sont en liste. Le président sortant Paul Biya a tenu son premier meeting de campagne pour un 7e mandat à la tête du pays. Samedi, à Maroua, dans l'extrême nord, il a déclaré que pour restaurer la paix dans les régions anglophones, il faut manier à la fois fermeté et dialogue et rester unis et solidaires. C'était sa première visite officielle dans une province camerounaise depuis 2012 et sa première parole publique depuis février. M. Biya a parlé une 15 minutes pour remercier les habitants pour leur accueil. Il a promis aussi la prospection pétrolière ainsi que le retour du tourisme qui s'est tari après les attaques de Boko Haram.
Et nous reviendrons sur ces élections au Cameroun en seconde partie de cette édition.
En République démocratique du Congo, les conflits de basse intensité qui continuent de miner maintes régions se sont poursuivis pendant le week-end avec des attaques de groupes armés rapportées dans le Kasaï et dans l'Ituri. Une position de l'armée a été attaquée hier matin dans la province du Kasaï central. Selon le gouverneur, le vice-gouverneur Manix Kabuanga, qui n'a pas pu donner de bilan. Et en Ituri, un assaut d'un groupe armé a tué 2 militaires et 3 civils, d'après l'administrateur du territoire de Djougou, Alfred Efoloko.
Au Mali, les forces gouvernementales ont déjoué une embuscade contre un convoi escortant des cars entre Gossi et Ombori. L'escorte a été obligée de rebrousser chemin vers Gossi. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
L'axe Gao-Sévaré, en plus de son état de dégradation, devient une route infréquentable à cause des multiples attaques. Hier, aux environs de 8 heures, une embuscade contre la mission des FAMA à environ 30 km de Gossi, tendue par des hommes armés non identifiés, a été déjouée. Les militaires maliens qui ont senti le coup venir se sont divisés avant d'encercler l'ennemi. Les passagers qui étaient dans les cars suivaient cet affrontement avec une grande frayeur. Le bilan provisoire fait état d'un militaire tué, 6 blessés, dont des cas graves. 2 véhicules militaires ont été enlevés. Dans le feu de l'action, la force Barkhane, à bord des hélicoptères, est arrivée sur les lieux aux environs de 10 heures. Par ailleurs, l'un des pères fondateurs de la rébellion de 1963, Aladi Ag Alla, est décédé à Tamaracet en Algérie. Il fut, avec d'autres camarades, les déclencheurs de la révolte d'une frange de la jeunesse Touareg. Après leur résistance, ils ont été arrêtés et remis au régime du président Modibo Keïta. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et puis, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, va demander aujourd'hui devant la justice internationale à être acquitté de tout crime contre l'humanité après avoir passé 7 ans en détention en relation avec la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Après plus de 2 ans de procès, la défense estime que le procureur de la CPI n'a pas été en mesure de prouver les accusations. Elle demande en non-lieu total un jugement d'acquittement pour toutes les charges et pour tous les modes de responsabilité, ainsi que la libération immédiate de M. Gbagbo. Les demandes sont similaires dans le cas de la défense de Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à l'ancien président.
Au Nigeria, les deux principaux syndicats de salariés ont annoncé hier la suspension de leur grève après l'ouverture de discussions avec le gouvernement sur une hausse du salaire minimum. Le point avec Rosine Mounezero.
Ayuba Waba, leader syndical nigérian, a annoncé hier la suspension de leur mot d'ordre de grève. Selon lui, le gouvernement a accepté de renouer le dialogue dans les prochains jours, les 4 et 5 octobre. Les syndicats réclament un salaire minimum entre 107 et 154 euros par mois, alors qu'il est actuellement de l'ordre de 42 euros. Le Congrès du travail du Nigeria, qui regroupe les ouvriers, et le Congrès syndical du commerce pour les cadres avaient appelé les membres du secteur public et privé à cesser le travail mercredi. La grève a été bien suivie le lendemain dans les administrations publiques. Seulement, les 36 États de la Fédération nigériane ont toujours fait part de leur opposition à une quelconque augmentation du salaire minimum. La plupart de ces États doivent encore plusieurs mois d'arriérés de salaire à leurs employés, malgré les renflements liquides dont ils ont bénéficié cette année de la part du gouvernement fédéral.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont parvenus dimanche à un accord de libre-échange pour l'Amérique du Nord, nommé l'accord États-Unis-Mexique-Canada, en remplacement d'un traité datant de 1994, selon un communiqué conjoint américano-canadien. Cet accord offrira à nos travailleurs, agriculteurs, éleveurs et entreprises un accord commercial de grande qualité qui donnera lieu à des marchés plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique solide dans notre région, souligne ce communiqué, publié seulement 90 minutes avant l'expiration d'une date butoir imposé par les États-Unis pour arriver à rallier le Canada au compromis déjà trouvé par le Mexique et Washington.
En Indonésie, le bilan toujours provisoire du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé vendredi l'île des Célèbes s'élève au moins 832 morts. Ce bilan risque donc de s'alourdir. Nous retrouvons Idriss Fall.
La plupart des victimes ont été recensées à Palu, sur la côte ouest des Célèbes. Les autorités prévoient des enterrements de masse pour prévenir les risques sanitaires. Les équipes de recherche travaillent sans relâche pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de blessés. Confrontés à la pénurie de nourriture, d'eau et de carburant, les habitants ont commencé à se servir dans les supermarchés et des stations-service. Les autorités promettent de rembourser les propriétaires de magasins dans l'attente de l'arrivée de l'aide. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu hier à Palu. La ville est jonchée de carcasses de véhicules, de bâtiments réduits en amas de débris, d'arbres déracinés et de lignes électriques abattues. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Une série de tremblements de terre en août avait fait plus de 500 morts sur l'île de Lombok, voisine de Bali.
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, se rend mardi à Paris pour discuter avec le président français Emmanuel Macron et la ministre des Armées, Florence Parly. Il sera notamment question de la Syrie. Ce sera la première visite en France pour Jim Mattis depuis qu'il a pris ses fonctions de secrétaire à la Défense début 2017. Éric Pahon, porte-parole du Pentagone, assure que M. Mattis va remercier la France et la féliciter pour des campagnes antiterroristes bien menées en Afrique occidentale et au Levant. Mais samedi, à la tribune des Nations Unies à New York, le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mualem, a réclamé le départ immédiat des troupes françaises, américaines et turques du territoire syrien. Il avait dénoncé une coalition illégitime dirigée par les États-Unis sous prétexte de combattre le terrorisme. Washington espère que Paris maintiendra des forces dans le nord de la Syrie, contrôlées par les forces démocratiques syriennes, alliés de la coalition internationale.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Ghana, la production annuelle de cacao est prévue pour dépasser la barre du million de tonnes dans les prochaines années. Le Ghana a bénéficié avec la Côte d'Ivoire d'un financement de 600 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour l'abattage de plus de 680 000 hectares de cacaoyers infectés par la maladie des pousses gonflées. Accra a annoncé avoir également initié diverses actions pour renouveler les cacaoyers affectés ou trop âgés et introduire des méthodes agricoles améliorées. La filière fournit près de 9% du produit intérieur brut du Ghana, qui, après la Côte d'Ivoire, est le deuxième producteur mondial de cacao, avec une production moyenne de 900 000 tonnes par an. Selon Tanzania Investment Center, la Tanzanie aura besoin de 3 611 milliards de dollars pour mener à bien ses 9 projets de centrales électriques et de lignes de transmission. Et pour terminer, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a alloué 50 millions de dollars à l'Égyptien Banque Misser. Une partie de ces fonds servira à financer les activités des firmes égyptiennes et étrangères qui réalisent des opérations d'import-export. Une autre partie servira à couvrir les risques de paiement et à apporter des garanties aux banques commerciales internationales qui réalisent des transactions avec la Banque Misser.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN 2019 et le Cameroun répond à la CAF.
Oui, lors de son comité exécutif, la Confédération africaine de football a estimé que le Cameroun, pays censé accueillir la CAN 2019, accuse un retard important dans la réalisation des infrastructures, mettant ainsi la pression sur le pays des Lions Indomptables qui pourrait se voir retirer l'organisation de la compétition. La fédération camerounaise a répondu hier par la voix du président du comité de normalisation, Thieudonné Rapi, qui a laissé entendre qu'un travail énorme a été réalisé et que le retard va être rattrapé. En attendant, le pays de Samuel Eto'o va accueillir une nouvelle visite d'inspection avant que la CAF annonce son verdict en fin novembre.
Direction le Maroc et René Girard est le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca.
Le WAC a annoncé la nomination du Français René Girard sur son banc. Âgé de 64 ans, le technicien qui avait conduit Montpellier à un titre de champion de France 2012 était libre depuis son départ du FC Nantes en décembre 2016. René Girard va vivre sa première expérience à l'étranger. Rival éternel du Raja de Casablanca. Le Wydad est l'un des clubs marocains les plus titrés, désigné meilleur club africain en 2017 par la Confédération africaine de football.
CAN Maracana 2018, le Togo sacré chez les seniors et la Côte d'Ivoire chez les super seniors.
Pays hôte de cette édition 2018, la Côte d'Ivoire dans la catégorie des super seniors a battu en finale le Togo 4-2. Le Mali finit troisième suite à sa victoire de 2-1 devant le Niger. Chez les seniors, le Togo a été sans pitié devant les Ivoiriens, battu 3-0. Le Bénin complète le podium après son succès de 1-0 face au Niger.
Cyclisme avec le Grand Tour Chantal Biya au Cameroun qui a connu son épilogue hier.
Oui, la course s'est terminée à Yaoundé. Après, on le rappelle, le drame et triste accident de samedi, même s'il n'y a pas eu de blessés graves. Alors, au classement général, après la dernière étape qui s'est courue hier sans les coureurs burkinabés et rwandais, très marqués psychologiquement par l'accident, c'est le Slovaque Juraj Belam qui s'impose 10 secondes d'avance sur le Camerounais Clovis Kamzong Abesolo, vainqueur de la dernière étape sans Melina, Yaoundé, 170 km. L'Ivoirien Issiaka Cissé complète le podium.
Volleyball avec le championnat du monde féminin et le Cameroun défait lors de sa deuxième sortie.
Vainqueur face au Mexique la veille, le Cameroun n'a pas longtemps savouré son exploit. Les Lyons ont été désillusionnés hier par l'Allemagne, dominatrice de bout en bout. Les Allemandes se sont facilement imposées 3-7-0. Prochaine sortie, ce lundi, contre les Pays-Bas.
Basketball mondial féminin et les États-Unis, une nouvelle fois, sacré champion du monde.
Les invincibles basketteuses américaines, invaincues depuis plus de 12 ans en compétition internationale, ont été sacrées championnes du monde pour la troisième fois consécutive hier à Tenerife en Espagne. Les américaines, septuples championnes olympiques en titre, ont battu en finale l'Australie 73-56, portant l'incroyable série à 51 succès durant Jeux olympiques, championnat du monde et qualifications confondues. Les joueuses entraînées pour la première fois par Dawn Stanley offrent aux États-Unis leur 10e titre mondial en 18 éditions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, la campagne électorale pour l'élection présidentielle entame cette semaine sa dernière ligne droite. Depuis son lancement le 22 septembre dernier, cette campagne a été marquée par la première sortie publique du président Paul Biya à Maroua, dans la région de l'extrême nord. De nombreux meetings ou encore des conférences de presse des candidats de l'opposition ont été par ailleurs organisés sur l'ensemble du territoire national, suscitant un certain engouement populaire. Le point de cette première semaine de campagne électorale au Cameroun avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julentap.
L'enjeu de la mobilisation populaire lors des meetings a été la principale attraction au cours de cette première semaine de campagne électorale, notamment dans la ville de Douala, où quatre candidats, Cabral Libi, Maurice Kamto, Franklin Difor Afangui et Akere Mouna, ont drainé chacun à son tour des milliers de personnes au lieu dit Stade Sikam. Quelques jours après, le RDPC, parti du candidat Paul Biya, va mobiliser à son tour de nombreux jeunes et commerçants à Yaoundé, à l'initiative du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, un militant du RDPC.
Vous avez vous-même suivi ce qu'ils ont dit. Ils disent que le président Paul Biya est un chef d'État qui a beaucoup d'expérience. Ils ont dit que les Camerounais ne veulent pas l'aventure votre président Paul Biya parce qu'ils savent qu'il a la maîtrise des grands dossiers républicains.
Nouvelle réplique de l'opposition camerounaise au lendemain du premier meeting politique du président Paul Biya à Maroua. Cette fois, le candidat du MRC, professeur Maurice Kamto, réunit environ 8 à 10 000 personnes à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé, avec la participation de nombreux jeunes acquis à sa cause.
À partir du 16 octobre, nous allons voter et nous allons surveiller nos votes. Nous avons essayé de regarder de fond en comble le projet politique que le MRC nous propose et avons donc opté à le soutenir afin que, après ce scrutin, il soit vainqueur.
La première semaine de campagne électorale au Cameroun a aussi donné lieu à un fait inédit, la déclaration des biens du candidat Akere Mouna.
Devant l'histoire, j'aurais pris ma responsabilité, j'aurais fait ce que je pense que chaque candidat à la présidence doit faire. J'aurais fait ce que la Constitution demande depuis 1996 et qu'on nous tourne en rond. Oh, la loi est trop compliquée, on ne sait pas comment on va le faire. Il y a des partis d'opposition qui le réclament. Mais qu'est-ce qui les empêche de même de poser deux lignes pour dire que j'ai deux bicyclettes et une maison?
C'est dans ce contexte de transparence que Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins, a dû rassurer tous les candidats à l'élection présidentielle sur l'utilisation des téléphones portables le 7 octobre prochain dans les bureaux de vote. Éric Essoussé, directeur général de Election Cameroun.
L'accès dans le bureau de vote du citoyen électeur avec son téléphone portable n'est pas interdit par la loi électorale. Les opérations de dépouillement du scrutin et le recensement des votes sont publics. Elles se feront en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir.
Une annonce qui a fait avorter une marche projetée par l'opposition devant le siège de Election Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Julentap. VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, ouverte le 28 septembre dernier, la campagne pour les élections municipales et régionales du 13 octobre bat son plein. D'Abidjan, le correspondant de VOA Afrique, Georges Ibrahim Tunkara.
En meeting ce dimanche après-midi dans l'un des quartiers de Yopougon, commune dont il sollicite le suffrage, Zié Koulibaly Daouda, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a fait beaucoup de promesses.
Je propose à Yopougon une gestion municipale à visage humain. Nous avons proposé la création de 230 conseils consultatifs. Les associations, les quartiers seront gérés avec la municipalité en même temps. Et les 8 milliards de la mairie vont être gérés en collaboration avec les quartiers. Donc Yopougon, pour le PDCI, c'est du concret. Et le congrès, c'est associer les quartiers, associer les jeunes à la gestion.
Zié Koulibaly Daouda aura fort à faire face au maire sortant, Gilbert Kafana Koné, porte-étendard de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. À Brobo, dans le centre, et à Daloa, dans le centre-ouest, les candidats investis par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se disent confiants.
Docteur Fatmata Traoré, candidat dans la région de Bekin et dans la commune de Brobo. Mais je vais mettre l'accent sur le rôle la communication au niveau des femmes, des jeunes, parce que les programmes de développement, comme c'est une élection locale, il faut mettre l'accent sur le développement local, ce qui intéresse la population.
Je suis Samba Koulibaly, maire sortant et candidat à sa succession à Daloa. Nous pensons que nous allons faire une campagne apaisée qui va dans le sens de la réconciliation nationale, une campagne qui va se faire dans la paix. On va mettre l'accent sur notre bilan, parce que je pense qu'on a un bilan dont on n'a pas à rougir, on peut être fier de ce bilan.
Les Ivoiriens auront le regard particulièrement tourné vers la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, où le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, sera face à un candidat soutenu par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais ce double scrutin intéresse-t-il vraiment les Ivoiriens et qu'en attendent-ils?
On a faim, on nous parle d'élection. C'est parce qu'il doit avoir élection, c'est les gars font.
Bon, j'attends le développement. Plus on a besoin de développement, donc il faut passer par là. Donc
vous allez voter?
Bien sûr, je vais le faire.
Tout en appelant à des élections apaisées, la commission électorale indépendante, la CEI, dont l'indépendance est mise en doute par certains partis politiques, se veut rassurante.
Je voudrais vous inviter à unir nos forces pour les franchir sans heurts dans la paix, la solidarité et l'esprit civique. Enfin, vous, candidats, je voudrais vous rassurer que la commission électorale indépendante continuera, encore une fois, à demeurer dans son rôle d'arbitre juste et impartial.
Ces élections municipales et régionales sont un test pour les différentes chapelles politiques en prélude à la présidentielle de 2020. Elles permettront surtout aux anciens alliés de la coalition au pouvoir, le PDCI et le RDR, d'évaluer leurs forces dans la perspective de cette présidentielle. Georges Brahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Au Burkina Faso, la question de l'avortement fait l'objet d'une controverse dans les milliers des professionnels de la santé auprès de certaines organisations religieuses. La pratique est interdite dans le pays, mais récemment, le gouvernement a annoncé qu'il comptait modifier la loi pour permettre ce qu'il a appelé des interruptions sécurisées de grossesse afin de protéger, je cite encore, la femme ou la jeune fille dans des circonstances difficiles. De Ouagadougou, correspondance de Lamine Traoré.
Depuis l'annonce par le gouvernement d'une probable relecture de la loi sur les interruptions sécurisées de la grossesse, donnant un certain nombre de droits à la femme et à la jeune fille, le Conseil national des évangéliques pour la lutte contre le sida et pour la promotion de la santé n'est pas passé par quatre chemins. Pour marquer son indignation, le pasteur Omar Sabadogo.
Conformément aux prescriptions des saintes écritures, dès la conception, l'individu est un être vivant. L'avortement est un crime.
Et pourtant, le gouvernement est ferme. Il ne s'agit pas de légaliser l'avortement, comme l'explique Nicolas Méda, le ministre de la Santé.
L'interruption sécurisée de la grossesse, aujourd'hui dans la loi du Burkina, est seulement autorisée quand il y a un viol, un inceste, un risque vital sur la santé de la mère, quand le fœtus à naître est tellement malformé qu'il n'y a aucun espoir de vie. En dehors de ces cas, le Burkina, vous pouvez considérer que l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, l'interruption sécurisée de grossesse est une infraction. C'est ça la position du gouvernement.
L'interruption volontaire de grossesse, qu'elle soit médicale ou non, n'est pas un geste anodin, selon Dr Linda Kobi, gynécologue obstétricienne. Le geste a beaucoup de complications, mais le faire en milieu sanitaire limite les dégâts. Et elle est favorable à l'interruption sécurisée.
Lorsque c'est réalisé dans un cadre légal et par des agents de santé compétents, ça limite considérablement la morbidité et ainsi que la mortalité liée aux complications de l'avortement. Le fait que ce soit des avortements sécurisés serait bénéfique pour les patientes et ce serait une option à envisager dans le futur.
Avant de parler d'interruption sécurisée de grossesse, le gouvernement devrait mettre l'accent sur les moyens de contraception, selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue obstétricien.
Tous les jours que Dieu fait, nous sommes abordés par des personnes qui n'ont aucun problème, mais qui portent une grossesse non désirée due à un échec de la contraception, par exemple. Est-ce que si je suis enceinte sans le vouloir ou par échec de contraception, moi je l'ai dit toujours, échec de contraception, est-ce que je peux accéder à un avortement, oui ou non?
L'avortement est interdit au Burkina, mais sur le terrain, il se pratique clandestinement. Selon une étude réalisée par l'Institut supérieur en sciences de la population de l'Université de Ouagadougou, le taux d'avortement clandestin est de 25 pour 1000 habitants par an et 41% de ces avortements sont faits par des tradipraticiens. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, interdiction est faite depuis le 1er septembre aux praticiens d'exercer en clientèle privée au détriment de leur engagement d'agent permanent de l'État. Même si pour beaucoup d'acteurs du secteur sanitaire, cela semble être une bonne idée, c'est la procédure utilisée qui suscite des protestations. Le point avec la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Le secteur de la santé au Bénin souffre de bien de maux auxquels n'ont pu faire face les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du Bénin. Par exemple, le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. C'est donc pour régler le problème que le gouvernement de Patrice Talon a donné un ultimatum aux praticiens agents permanents de l'État de faire le choix entre rester dans le public ou se consacrer à leur clinique privée. Pour le ministre de la Santé, le non respect de cette décision expose à de sévères sanctions.
Tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales.
Au lendemain de cette décision, le syndicat Unité du CNHU de Cotonou, au cours d'une conférence de presse, a salué la clairvoyance du gouvernement qui pourra redonner vie à la santé dans le secteur public. Le secrétaire général de ce syndicat parle d'une véritable pagaille qui a desservi durant des années les hôpitaux publics. Théophile Dossou.
Pendant les quelques heures que certains professionnels de la santé viennent faire dans les centres publics, c'est l'occasion en or pour eux de dénicher et d'orienter les patients pour leur clientèle privée. Des matériels médicaux chèrement et difficilement acquis par l'État béninois sont détournés allègrement par certains praticiens sans scrupules.
Mais selon certains professionnels de la santé, une telle décision n'est pas du ressort du gouvernement. Selon Dr Mouliro Bankole, le gouvernement se substitue à l'ordre des médecins en prenant une telle décision.
Le gouvernement n'a pas étudié suffisamment les différents tests qui régissent l'exercice de la profession. Il existe un ordre des médecins qui pourra s'assurer ou bien voir avec les autorités quelles sont les dispositions à prendre pour que ni l'un ni l'autre n'exerce inégalement son pouvoir.
Malgré tout, les populations pensent que l'État fait bien de siffler la fin de la pagaille qui régit le secteur de la santé au Bénin.
On ne peut pas accepter que quelqu'un qui doit exercer dans le public passe tout son temps dans son cabinet et à la fin du mois exige d'être payé par le public. C'est cruel, c'est criminel.
Je crois qu'à travers cette décision, le gouvernement vient remettre chaque acteur devant ses responsabilités et d'assumer en toute honnêteté et en toute loyauté la tâche qui est la sienne.
Le Bénin dispose bien plus de cliniques privées que de centres de santé publics. Depuis quelques jours, le gouvernement a commencé à fermer les cliniques privées n'ayant pas de base légale. Cela pourrait créer une affluence difficile à gérer au niveau des hôpitaux publics. Il faut dire que la décision du gouvernement, même si salutaire, souffre de bien de lacunes qu'il faudra corriger au risque de mettre le secteur de la santé plus mal qu'il l'était. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Ariel Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.